tantu warna murid bi rawng serigne montakha mi siginna la
religion du monde véronique guémard
Bonjour à tous. Direction Dakar, la capitale du Sénégal, à la rencontre de l'islam soufi et de certaines des confréries qui le caractérisent dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Un islam mystique et ascétique introduit dans le pays vers le XIIe siècle. Sur les 17 millions d'habitants, environ 95% sont musulmans. La très grande majorité sont membres d'une des quatre principales confréries religieuses soufies, elles-mêmes dirigées par des khalifs qui descendent des fondateurs. Les mourides, les tidianes, les radres ou les layennes, des confréries qui jouent un rôle économique, politique et social essentiel au Sénégal. Reportage et rencontre à Dakar dans cette émission Religion du Monde. À Dakar, ce vendredi 27 mai, c'est l'événement. Une première depuis 3 ans. Le grand calife de la confrérie des Mourides, qui réside dans la ville sainte de Touba, est en visite dans la capitale et se rend pour la prière à la grande mosquée Massalikoul Djinan.
C'est un grand jour aujourd'hui parce que déjà, un vendredi, c'est un grand jour pour tous les musulmans, mais aussi et surtout pour nous, la communauté Mouride du Sénégal. C'est une visite de notre calife général, Seigne Moutaka Mbake. Notre fierté aujourd'hui est indescriptible. Certainement, il y aura des messages pour toute la nation sénégalaise, pour la communauté, mais aussi pour tout le Sénégal. Certainement, un message de paix, d'union, de solidarité. De sécurité, certainement, vu l'état actuel de la situation dans notre pays.
Et vous avez une très belle tenue, vous pouvez me la décrire ?
Je porte une robe à la sénégalaise de couleur blanche pour symboliser la pureté et aussi notre union pour célébrer cette belle journée.
La mosquée Massalikoul Djinan dépasse désormais en taille la grande mosquée de Dakar. Flanquée de 5 minarets, dont le plus haut culmine à 80 mètres, elle peut accueillir 30 000 personnes. Construite sur un terrain donné par l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, elle a été financée en totalité par la confrérie et aurait coûté 20 milliards de francs CFA, environ 30 millions d'euros. Inaugurée en 2019, il y a 3 ans donc, en présence du grand calife, elle est désormais surnommée la mosquée des Mourides. Tout le monde s'activait déjà la veille, autour et à l'intérieur de la grande mosquée, pour préparer la venue du khalife, Cheikh Moutaka Mbake, petit-fils du fondateur de la confrérie des Mourides. Un événement qui a pris des allures de maga, la grande célébration du mouridisme qui se déroule tous les ans à Touba, la ville sainte des Mourides.
Je suis Abdoulaye Diop Bichri, un musulman. Talibé de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, le fondateur du mouridisme, un professeur et un islamologue. Actuellement, nous sommes au centre de la grande mosquée de Massalikoul Djinan, qui est construite, érigée au centre de Dakar par la communauté mouride. Aujourd'hui, nous nous sommes en train de préparer pour recevoir le khalife général des Mourides qui va effectuer une visite dans la capitale, à Dakar. On a des confréries différentes ici au Sénégal, mais nous vivons dans la paix, dans la solidarité. Chaque fois que les Mourides organisent leur journée ou leurs événements, le khalife général des Tidianes envoie des délégations qui viennent nous accompagner dans ces journées. Le khalife des Layennes fait de même chose. Le khalife de Tianaba fait la même chose. Tout le monde est avec nous.
Et l'église catholique.
Voilà. Il y a le dialogue islamo-chrétien qui passe très bien entre nous. Donc, Sénégal, c'est pourquoi on l'appelle le pays de la teranga. Parce qu'il y a la paix, il y a la teranga, c'est l'hospitalité.
Docteur Khadim Lo, l'adjoint du imam Ratif de la grande mosquée Massalikoul Djinan.
Alors, en tant qu'imam, quelle est l'importance pour vous de cette mosquée, puisqu'elle a été construite en 2019, il y a 3 ans?
Oui, c'est très important, cette mosquée. Elle joue un rôle très social et très important à côté de la spiritualité. durant le mois du Ramadan, on a offert des ndogou, c'est-à-dire des petits déjeuners après la rupture du jeûne, plus de 5000 personnes chaque jour. Pendant la période du Covid, c'était la seule mosquée qui était ouverte avec le respect de toutes les barrières. C'était une mosquée très importante pour durant cette période, le confort et en même temps aussi le niveau du serment de l'imam, ça attire beaucoup de monde. C'est une grâce divine que le guide spirituel du mouridisme, malgré son âge, décide de venir voir ses fidèles, prier la prière du vendredi avec eux. Ça fait beaucoup de bonheur pour les fidèles.
J'imagine que ce sera très difficile de rentrer dans la mosquée.
Bien sûr, ce sera très difficile, même pour les imams. Même pour les imams, ce ne serait pas facile.
Toute la communauté se retrouve autour de lui pour communier ensemble, pour vibrer ensemble, mais pour marquer notre empreinte au niveau du Sénégal.
Mamadou Diang, un fidèle de la mosquée Massalikoul Jinan.
Parce que les mourides représentent une force politique, une force économique et une force sociale non négligeable ici au Sénégal. Donc à chaque fois que les mourides s'organisent, à chaque fois que les mourides se retrouvent, c'est un grand événement. Tout est aux arrêts, tout se concentre au niveau du khalif. Et nous, jeunes, nous allons en profiter pour se ressourcer et également pour montrer notre solidarité et notre engagement à l'égard de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Parce que nous avons fait l'école française. Et nous n'avons pas oublié que c'était le colon français qui avait eu des démêlés avec le Cheikh Ahmadou Bamba, qui a eu à l'exiler au Gabon et qui a mis ici son école française. Aujourd'hui, on est des plus produits de l'école française, mais on a gardé intacte notre identité culturelle. On a gardé intact nos mœurs et notre civilisation, et ça grâce à Cheikh Amourou Bamba, et qu'il a fait de manière très pacifique, sans prendre des armes. Il n'a pas eu l'idée de se venger, il n'a pas eu l'idée de prendre des armes comme certains l'ont fait. C'est le premier apporte de la non-violence, et c'est ce message-là que je donne aux jeunes. C'est un message d'apaisement, d'être très pacifique, et d'être assez courtois, assez convivial vis-à-vis de l'autre. C'est pourquoi aujourd'hui vous êtes là devant moi, tout en étant blanc, français certainement, moi noir, sénégalais, du Cheikh Ahmadou Bamba, et qu'on n'a pas du tout de problème. On est en de bons termes, c'est ce que le Cheikh nous a appris. Même si on est de civilisations différentes, même si on est de religions différentes, c'est l'acceptation de l'autre. Et c'est ça ce message-là, universel de Cheikh Ahmadou Bamba, qu'il faudra aujourd'hui même faire enseigner à l'humanité, pour qu'il y ait un message de paix, d'amour et de stabilité dans ce monde-là.
Ce vendredi-là, en effet, pour la grande prière de 14h, une foule impressionnante se presse pour accéder à la mosquée. La plupart restent sur le parvis et débordent à l'extérieur dans les rues adjacentes. Certains sont venus de très loin. On se bouscule pour tenter d'apercevoir le grand calife de Touba avant l'appel à la prière qui retentit soudain dans le silence. Après le prêche de l'imam, tout le monde se presse à nouveau pour essayer de voir le grand khalif dont le cortège disparaît sous l'escorte policière.
On est en fait très satisfait parce que lorsqu'on parle du khalif général des Mourides, c'est comme si c'était le khalif lui-même. Et on a même qui sont restés ici toute la nuit. Ils sont passés ici la nuit pour prier la prière, pour faire la prière de Fajr et pour rester ici jusqu'à... On ne peut pas vivre autre chose que l'islam. On est né dedans. On est né, on a vu nos parents qui sont des musulmans, notre père mourit, nos mères mourit. Donc nous, on vit quotidiennement sur l'islam. On ne peut pas vivre une autre chose, quoi. Donc chaque jour, c'est comme ça. On se lève, on fait nos prières. En plus de ça, nous, on lit les chassades de Serine Touba, on fait nos wers peut-être, mais la vie de l'islam, c'est toute notre vie, en fait. On ne peut pas dire c'est ça, c'est comme ça on vit, parce qu'on est né dedans.
Devant la grande mosquée, des groupes de fidèles assis en cercle chantent des déclamations de Hassaïd, des poèmes écrits par le fondateur du mouridisme à la fin du XIXe siècle, Cheikh Amadou Bambam Baké, qui a fondé la ville sainte de Touba.
«
Jim Dramé est islamologue, chef du laboratoire d'islamologie de l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il revient tout d'abord sur le parcours du fondateur de la confrérie des Mourides, Cheikh Amadou Bambam Baké, un Sénégalais qui a résisté à la colonisation française à la fin du 19e siècle.
Cheikh Amadou Bambam Baké, d'abord, il n'a pas pu se rendre à la Mecque parce que le colon n'avait pas voulu le laisser effectuer le pèlerinage à la Mecque.
Donc la France coloniale à l'époque ?
À l'époque, la France coloniale à l'époque. Il a beaucoup souffert donc du méfait du colonialisme. Il a été exilé, je l'ai dit, il est né vers 1853. Son père était un enseignant, un marabout, soufi, cadre, Mamour Anda Salim Baké. Et après le décès de son père en 1883, il a gardé donc le Dara, l'école, le foyer. Et par la suite, il a créé, comme je l'ai dit, la tariqa. Mais l'autorité coloniale pensait que le marabout préparait au djihad.
Donc les Français avaient peur, oui, que les mourides refassent une sorte de djihad, de guerre sainte, au Sénégal même. Et donc c'est pour ça qu'ils ont exilé fondateur.
C'est l'un des arguments donnés par l'autorité coloniale. Dire que le marabout là, si on le laisse, il va préparer un djihad, il va donc affaiblir l'autorité coloniale, il va se procurer des armes. Alors, c'est pourquoi il a été exilé donc au Gabon pendant 7 ans. De retour, il a été encore exilé en Mauritanie pendant 3-4 ans. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il a beaucoup souffert durant l'époque coloniale.
Mais quand il est revenu, ça a été un triomphe pour lui. C'est-à-dire que les Sénégalais étaient extrêmement fiers de son combat.
Ça, c'est une question fondamentale qui fait que la tariqa mouride connaît une expansion extrêmement rapide. D'abord, une confrérie fondée par un Sénégalais qui a beaucoup souffert. Même de retour de la Mauritanie, il a été mis en résidence surveillée jusqu'à sa mort en 1927. Donc, vous voyez, pratiquement, il a souffert toute sa vie. L'autorité coloniale suivait tous les marabouts du Sénégal, mais particulièrement le marabout de Touba. C'est lui qui a créé d'ailleurs la ville de Touba vers 1887-1888.
Donc, qui est devenue la ville sainte au Sénégal, qui est vraiment la ville des Mourides.
Oui, qui est devenue maintenant la capitale de la Mouridia, et également la deuxième ville au Sénégal en termes de population.
Pour comprendre la particularité de la culture de l'islam au Sénégal, il faut revenir en arrière dans l'histoire, sur la façon dont l'islam s'installe dans le pays, par le djihad, les guerres saintes, et progressivement entre le 8e et le 14e siècle.
L'islam est annoncé à la Mecque en l'an 610 de l'ère chrétienne.
L'islamologue Jim Dramé.
Mais il a fallu attendre au moins 4 siècles avant de voir l'islam arriver au Sénégal. Alors, selon les recherches scientifiques, donc il y avait des voyageurs comme Mungo Park, par exemple, ou bien Arab Al-Bakri, et d'autres sources qui ont signalé l'existence de l'islam au Sénégal depuis longtemps. On parle même depuis 10 siècles. Et ce sont les commerçants venant d'Irak et qui ont introduit donc l'islam dans cette partie d'Afrique noire. Ce qu'on peut affirmer avec force, c'est que l'islam est arrivé au Sénégal avant 1040. 1040, c'est la date du décès de War Diaby. War Diaby qui était un souverain et en même temps convertisseur en islam. Et donc, il a beaucoup travaillé, il a contribué donc à propager l'islam. Donc forcément, l'islam est arrivé au Sénégal avant 1040. Là, on est d'accord. Ce sont les Mauritaniens, les Maures mauritaniens qui ont donc finalement introduit l'islam au Sénégal et qui étaient les premiers marabouts des Sénégalais. Ce sont ces marabouts mauritaniens qui ont formé les premiers marabouts sénégalais. Et ces derniers, à leur tour, ont donc pris leur relais pour créer donc des écoles coraniques, pour enseigner, éduquer, former et donc propager l'islam au Sénégal.
Alors cet islam au Sénégal, quelle est sa particularité?
Mais ce sont les pratiques qui sont quelquefois différentes. Les Sénégalais, on est à au moins plus de 95% des Sénégalais sont des musulmans, des croyants, des pratiquants, qui respectent les cinq piliers de l'islam d'ailleurs.
Mais il y a aussi un système de confrérie qui est très particulier au Sénégal. Qu'est-ce que c'est que les confréries au Sénégal et comment sont-elles organisées? Et
très très bien. Confrérie, donc en arabe, on dit tariqa. Tariqa, confrérie. Le Sénégal est un pays très majoritairement confrérique et soufi. Les confréries soufis existent au Sénégal depuis des siècles. Les Sénégalais s'identifient sur au moins quatre principales confréries. La Qadiriyya, selon l'ancienneté, la Qadiriyya, la Tidjaniyya, donc la Mouridiyya et la Laïniyya. Donc les quatre confrérie principale soufie qui existe au Sénégal, et chaque confrérie a ses disciples, a ses talibés, comme on dit ici au Sénégal. Voilà, qui écoute le calife, le marabout, qui est donc à la tête de la khilafa, qui écoute religieusement ses discours, ses sermons, ses paroles. Voilà les quatre principales confréries qui existent au Sénégal depuis longtemps. En termes de nombre, les Tidjanes seraient, je dis bien, légèrement majoritaires.
Il y a aussi les mourides.
Les mourides, là, la particularité de cette tariqa, de cette confrérie, c'est qu'elle est sénégalaise, c'est-à-dire fondée par un Sénégalais, Cheikh Ahmed Bambam Baké. Il serait né vers 1853 et décédé en 1927. Donc c'est une confrérie purement sénégalaise, créée par un Sénégalais. Et avant de créer cette confrérie, il était cadre, il a été tidjane. Et finalement, il a créé sa propre confrérie soufie, qui est la Mouridiyya, et qui compte beaucoup de disciples ici au Sénégal.
Et ensuite, la quatrième confrérie, plus importante
au Sénégal, ouais. C'est donc la Tariqa Layene. La Tariqa Layene est créée également par un Sénégalais, c'est l'Imam Oulaye. L'Imam Oulaye, lui, il était un Lébou, c'est-à-dire originaire, habitant de Dakar. Donc ici, à Dakar, les Lébou, anciennement, leur domaine de travail, c'était la pêche. Donc lui, par la langue Wolof, il a pu vraiment organiser et propager sa tariqa, essentiellement au niveau de ce qu'on appelait anciennement la région de Cap-Vert, c'est-à-dire Dakar, la région de Dakar et environnant. Voilà, donc c'était ça, c'est la quatrième. Et il a vécu entre 1843 et 1909. Voilà les quatre principales confréries soufis au Sénégal. La Khadriya, la Tidjaniya, la Mouridiyya et la Laniya.
L'islam soufi et confrérique autour de familles religieuses se développe au Sénégal notamment au cours du 19e siècle. Pendant la période coloniale, ces confréries deviennent un ciment de l'identité sénégalaise. La progression de l'islam et le développement des écoles coraniques, les dara, sont d'ailleurs freinés par le colonisateur français à l'époque, comme l'explique Jim Dramé.
Les marabouts sénégalais étaient des visionnaires. Ils étaient convaincus que l'islam, donc c'est en quelque sorte le salut, c'est-à-dire la solution pour eux, c'est l'islam. Il faut former les Sénégalais, les musulmans, les citoyens, donc sur le plan, donc avec nos valeurs, les valeurs sociales, religieuses, sociétales, morale. Voilà, ces valeurs-là, pour eux, ils ne les trouvaient pas dans le système ou bien dans l'offre éducative française. Parce que pour eux, l'école coloniale, c'était pour former donc des gens qui croient religieusement à la France. Il y avait une dualité entre l'école française et l'école arabo-islamique au Sénégal. C'est pourquoi Louis Federbe, qui était ici gouverneur, il avait pris un arrêté. Le 22 juin 1857, avait pris un arrêté pour interdire la création d'écoles coraniques islamiques au Sénégal, essentiellement à Saint-Louis à l'époque. Wow. Mais les Sénégalais, les Marabouts sénégalais n'ont pas suivi. Certains avaient quitté la capitale pour aller donc s'installer dans les brousses, dans les forêts, pour créer leur village et leurs écoles musulmanes et continuer à enseigner. Donc, pour revenir à Cheikh Ahmed Bamboumaké, c'est toute sa vie qu'il a souffert de l'autorité coloniale. Mais quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a écrit donc un poème dans lequel il dit « J'ai pardonné à tout le monde. J'ai pardonné. » Donc, tout l'esprit donc, de pardon, de tolérance. Pour moi, c'est exhorter les disciples de Bourrit à avoir une attitude, un esprit de tolérance. Le vivre ensemble, en paix, apaisement. Et ça fait également l'une des particularités des confréries soufis au Sénégal. C'est-à-dire appeler à l'apaisement, à une vie pleine de concorde.
Au vivre ensemble.
Vivre ensemble, en paix, en solidarité. Il faut être solidaire, il faut être tolérant. C'est l'une des particularités des confréries soufis au Sénégal. En tout cas, leur discours. Et leurs sermons partout. Il y a l'aspect tolérance, il y a l'aspect entraide, il y a l'aspect, donc, le respect de l'autre également.
Aujourd'hui encore, les fidèles vouent un véritable culte à leur marabout, à leur khalif, à leur maître spirituel. Des véhicules sont décorés et peints avec des portraits des marabouts, des citations de leurs paroles ou des versets du Coran. Lors de la grande prière du vendredi 27 mai à la grande mosquée Mouride de Dakar, des femmes s'étaient enveloppées d'un pagne à l'effigie du grand khalif Cheikh Moumtaza Mbacké.
Moi, je crois que le rôle des confréries soufis au Sénégal est un rôle extrêmement important. C'est des régulateurs sociaux, c'est là qui garantissent la stabilité. Au niveau national. Je l'ai dit, le discours du calife, il est religieusement écouté, contrairement au discours des politiques. Pourquoi? Parce que, ici au Sénégal, le marabout confrérique, il a une légitimité religieuse, il a une reconnaissance sociale et il a une acceptation populaire. C'est pourquoi, les califes, la tendance actuellement, chez les différentes confréries au Sénégal, c'est lors des manifestations religieuses, par exemple, Gamou chez les Tidiane, Magal chez les Mourides, le khalife général prépare un discours complet prononcé par le porte-parole. Et le discours, c'est un discours annuel ou bien périodique. Il traite des questions d'actualité, des questions économiques, des questions sociales, des questions religieuses, des questions politiques. Donc, par exemple, exhorter les disciples paysans à aller travailler, exhorter les politiques à travailler pour le bien-être du Sénégal, éviter donc de créer des guerres, des conflits sociaux ici au Sénégal, par exemple. Exhorter donc les talibés, les disciples, commerçants et opérateurs économiques à avoir plus donc l'esprit de solidarité, d'entraide. Donc le discours du khalife, c'est des discours thématiques.
Il a aussi un poids pour, par exemple, réconcilier des politiques qui sont fâchés entre eux. On a vu ça déjà.
Ça fait partie de leur force. Appeler les politiques, éviter les tiraillements, éviter les conflits, travailler pour un Sénégal uni. La grande partie des électeurs, donc, c'est les confréries. qu'on soit mouritidien, khadr ou laïen. Et également, chez certaines associations islamiques, ce qu'on appelle les réformistes. Donc, qui a l'accord du khalif à ses côtés, pour un politicien, ça, c'est un soutien de taille. C'est pourquoi ils font tout pour satisfaire le marabout, pour convaincre le marabout par rapport à leur projet de société, par rapport à leur projet politique, pour que ce dernier donne ce qu'on appelle ici au Sénégal « Nigel ». Même si le Nigel n'a pas le poids qu'il avait avant, depuis une vingtaine d'années, ça évolue.
Donc cette consigne de vote,
oui, consigne de vote
qui était donnée par le marabout.
Comparé à ce qui s'est passé il y a vingtaine, trentaine d'années, le Nigel maintenant est suivi, mais partiellement. Parce qu'il y a ce qu'on peut appeler une conscience, je dirais même électorale. Maintenant, les disciples commencent à se méfier aux paroles de certains politiques. Et concernant donc les consignes de vote, maintenant, sont de moins en moins maintenant appliquées, suivies au Sénégal.
Quel est le poids de l'islam soufi en particulier dans la société, c'est-à-dire auprès des citoyens?
Je vais vous donner un exemple, par exemple. Durant la COVID-19, l'État du Sénégal avait opté pour la solution sanitaire. Dans un premier temps, ils avaient oublié le poids des marabouts pour influencer les disciples à respecter les mesures barrières. Le calife général des Mouvites, le Cheikh Muntaha Baké de Touba, allant faire la prière du vendredi à la grande mosquée de Touba, il est sorti en respectant pratiquement toutes les mesures barrières.
Avec un masque.
Et du coup, la plupart des disciples disent maintenant, comme notre marabout respecte lui-même ces mesures, nous allons respecter ces mesures-là. Parce que le marabout, il a une légitimité religieuse et une reconnaissance sociale. Sur le plan social, sur le plan économique, parce qu'il y a des disciples de ces confrères-là, c'est des opérateurs économiques, c'est des milliardaires, donc, et qui écoutent les consignes du marabout. Faites ceci, faites cela.
Et ce sont justement ces acteurs économiques qui ont donné de l'argent pour construire cette grande mosquée mouride à Dakar.
La grande mosquée mouride à Dakar, bon, le khalif, pour le khalif, ce n'est pas une mosquée essentiellement mouride, mais c'est une mosquée qui appartient à tous les musulmans. Cette mosquée-là, qui s'appelle Masalikul Dinan, c'est un ouvrage du fondateur, Cheikh Ahmed Bambaké. Maslak, c'est donc voie, tariqa, chemin, les chemins qui vont vers les paradis. Il y a la contribution du khalif général lui-même, la contribution pratiquement de l'ensemble des mourites, mais particulièrement il y a des individualités mourites, opérateurs économiques, qui ont beaucoup contribué à la construction, à l'édification de cette grande mosquée. Il y a une particularité chez les mourites. C'est la capacité de mobiliser des sommes d'argent. Ça, vraiment, c'est leur point fort. Par exemple, à Touba, il y a ce qu'on appelle un organisme qu'on appelle Touba Tchakanam, c'est-à-dire Touba en avant, la ville de Touba en avant. Il a été créé il n'y a pas longtemps, peut-être 2-3 ans de cela. Il demande à chaque disciple de donner 1000 francs par mois, par exemple. Mais c'est des milliards. Mais ils vont, avec cette somme, essayer d'entretenir donc la ville sainte de Touba en termes d'assainissement, en termes d'électricité, en termes de canalisation, en termes de voilà, vous voyez. Et donc, ils ne vont pas attendre donc l'État, la mairie, et même le maire, il fait partie de cet organisme. Donc ça, c'est une initiative mourite vraiment importante. Et ça, l'un des points forts des mourites. Donc la capacité de mobiliser vraiment des hommes d'argent. Et quand ils le font avec fierté, hein, ces disciples-là. Ouais.
Cette œuvre où nous sommes actuellement a été construite sur fonds propres.
Daouda Sow, assistant de l'imam de la mosquée Masalikul Jinan de Dakar.
n'a pas demandé ni à l'État, ni un apport extérieur. C'est nous. Ce qui symbolise cette contribution, c'est vraiment cette caisse-là.
Voilà.
Montrez-moi, donc c'est une caisse en fer qui est posée sous le dôme donc principal de la grande mosquée.
Pour des contributions volontaires.
Et donc dans cette caisse,
il y en a partout.
Il y en a partout.
À Dakar, partout dans le Sénégal. Et la communauté sénégalaise à l'extérieur aussi. La plupart des Sénégalais que vous voyez à l'étranger, ce qu'on appelle la diaspora, la plupart sont des mourides qui envoient leurs contributions aussi. Et tout, il faut compter sur le mot volontaire. Tout est volontaire, il n'y a pas d'exigence. Donc ça, c'est un symbole. Quelqu'un qui passe, qui met une pièce de centime, d'autre qui écrit un chèque, un gros chèque. Il y en a qui contribuent pour 1 million d'euros. Comme ça, cash d'un coup.
Moi, par exemple, je suis à la retraite. Mais avant, j'ai travaillé pour une compagnie aérienne. J'étais un haut cadre, un cadre d'une compagnie aérienne. Je contribuais. Il y avait les petites caisses là que vous voyez à chaque fois. Je prenais une partie de mon salaire, je mettais là-dedans. Avec l'événement des transferts d'argent, on a fait des appels de fonds. Je prenais mon téléphone portable, je mettais quelques sous. Quand j'avais la possibilité, je venais ici, je travaillais manuellement à transporter un petit truc. C'est le côté non quantifiable. Les architectes peuvent vous dire que la mosquée a coûté tant. Mais tout ce que je viens vous dire là, et les gens que vous continuez à voir ici, qui font le ménage, qui nettoient, la plupart c'est des étudiants, la plupart c'est des jeunes intellectuels de haut niveau qui viennent contribuer. Voilà.
Les discours des marabouts des différentes confréries soufis au Sénégal ont un poids très important. Ces confréries font office de régulateurs sociaux. Avec la dégradation sécuritaire dans les pays voisins du Sahel, les confréries font aussi passer des messages à leurs fidèles. L'islamologue Jim Dramé a contribué à la réflexion auprès du Centre des hautes études de défense et de sécurité sur le rôle des confréries religieuses dans la prévention de l'extrémisme violent au Sénégal.
On est incontestablement menacé actuellement parce que le Sénégal est entouré. Partout on parle donc du djihadisme, donc on parle de terrorisme, on parle des attaques parties par là, au Mali, au Burkina Faso. Donc le Sénégal donc maintenant souffre dans une situation extrêmement inquiétante. Si le Sénégal est épargné jusqu'au moment où je vous parle de ces phénomènes, alors il faut remercier essentiellement et accepter le travail des confréries. Je dis tantôt que c'est des régulateurs sociaux. C'est des garants de la stabilité sociale, de la stabilité nationale. Ils ont légitimité religieuse, sociale et sociétale. Ils sont capables de conscientiser les disciples des talibés. L'un des thèmes, c'est conscientiser les jeunes à ne pas sortir du pays ou bien pour être membre ou bien ce qu'on appelle donc ces groupes attaque, assassine, qui tue, alors que, on le sait, la vie est un don de Dieu. Pourquoi les marabouts soufis s'attachent fortement sur ce principe? Il faut préserver la vie. Alors, le Coran nous dit, nafs, une personne qui n'a rien fait, ben c'est comme si on avait tué tout le monde, tout l'univers. C'est par ce principe. Les marabouts sénégalais, les marabouts soufis, donc, se basant sur les enseignements du Coran et de la prophète alayhi salatu wasalam, ils appellent donc leurs disciples, le talibé, à éviter de faire l'extrémisme violent. La capacité des marabouts sénégalais à mobiliser, à conscientiser, à sensibiliser donc les talibés, les disciples, fait que le Sénégal est, jusqu'au moment où on parle, épargné de ce phénomène-là. Pour certains disciples, l'essentiel, c'est d'entendre le marabout, leur marabout parler. Faites ceci, évitez cela, ne faites pas ceci, soyez prudents. Il faut éviter ce qu'on appelle le djihadisme. Voilà, travaillez, soyez solidaires. Voilà le discours-là qui tient. C'est pourquoi le poids des marabouts soufis dans cette lutte est vraiment important et incontournable.
Certains disent qu'il y a une ré-islamisation de la société, c'est-à-dire donc
des signes qui montrent que, par exemple, les femmes sont plus voilées qu'avant, qu'il y a 15 ans, par exemple. Qu'il y a comme ça des signes qu'on perçoit dans la société sénégalaise. Ils sont dus à quoi, ces signes ? Est-ce que c'est une influence réformiste, donc venue du Moyen-Orient ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se développe même via les confréries ?
Moi, je dirais les deux à la fois. Il y a peut-être 25 ans, on pouvait même dénombrer le nombre d'étudiantes voilées à l'UQAT.
À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Et maintenant, pratiquement, si vous sortez, toutes les étudiantes, ou bien au moins 75%, 80%. Ça, pour moi, c'est lié à deux facteurs. Il y a le travail des réformistes. C'est des mouvements qui ont été créés au Sénégal depuis les années 50, avec le retour des premiers Sénégalais diplômés du monde arabe, d'Égypte, d'Arabie Saoudite. Ils avaient créé des écoles arabes. Il y avait les daras traditionnels, mais eux, ils voulaient donc créer, innover en créant donc des écoles arabes. C'est là où on enseigne seulement l'arabe et le Coran. Par la suite, ils avaient entré donc le français pour dire école franco-arabe, plus d'arabe et un peu de français. Mais ils avaient aussi tendance à organiser des conférences pour conscientiser, sensibiliser les gens sur l'islam, les pratiques de l'islam.
Ça, un islam plus rigoriste, donc.
Oui, oui. Et ça aussi a contribué à ce que l'on voit aujourd'hui, des étudiantes, mais pas seulement des étudiantes, mais des Sénégalaises, ont tendance à maintenant à se voiler.
Ces mouvements plus rigoristes venus du Moyen-Orient dans les années 50 ont été très actifs à l'époque en prenant la rupture avec l'État colonial. On les regroupe dans l'appellation islam réformiste et ils ont aussi une incidence sur les confréries soufis. El Hadj Malik Si Camara, enseignant au département de sociologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Nous avons toujours considéré que l'islam au Sénégal est un islam soufi, mais depuis quelques années, nous constatons qu'il y a une tendance qui est qualifiée de tendance réformiste qui se développe, qui milite justement en faveur d'un islam qui s'affranchit, entre guillemets, des confréries et qui propose justement un islam qui permet aux militants, parce qu'eux, ils parlent de militants, qui permet aux militants de pouvoir se déployer dans l'espace public sans pour autant justement se soumettre aux confréries. Au début des années 80 et à la fin des années 90, c'est ce qui était parti à l'étranger pour étudier, notamment à l'université Al-Azhar et dans d'autres universités justement du Maghreb, marginalement en Arabie Saoudite. Mais c'est à leur retour, ils ont joué un rôle de contre-élite pour dire qu'en réalité, il y a la possibilité pour les arabisants de montrer une autre voie à suivre. Ce qui fait qu'une fois au Sénégal, ils ont essayé de s'affranchir des confréries pour proposer un islam qu'ils considèrent comme un islam réformiste. Autrement dit, qui permet aux adeptes de pouvoir se déployer sans pour autant justement toujours se soumettre au calife, mais également au marabout, parce que le soufisme au Sénégal est qualifié d'islam confrérique, avec justement la soumission, entre guillemets, aux ordres du calife. C'était un peu cette ligne de démarcation entre ces deux types d'offres en termes d'islam.
Mais quelle est la différence fondamentale entre les deux ?
Dans le discours, il s'agissait de dire, dans un premier temps, aux citoyens que seuls vos actes vous permettent justement d'entrer au paradis. Donc, dans la proposition d'un discours nouveau, la première chose, c'était ça. Mais la deuxième chose, c'était de faire croire aux citoyens que dans la pratique de la religion, on ne peut pas parler d'héritage. La question d'héritage n'existe pas. On peut avoir sa place dans l'islam, dans la religion, sans pour autant appartenir à une famille confrérique. Mais également, dans la pratique de la religion, nous voyons aussi au niveau des comportements, même au niveau vestimentaire, on commence à constater des formes d'accoutrement, j'allais dire, d'habillement qui seraient plus proches de ce qu'on retrouve au Moyen-Orient, de ce qu'on retrouve justement en Arabie Saoudite. Pour les hommes et pour les femmes. Il s'agissait pour les hommes de porter des habits qui ne dépassent pas justement les mollets. Pour les femmes, ce qu'on appelle le voile islamique a connu justement un développement avec cet islam. On voit une différence entre le voile proposé par l'islam confrérique et justement celui proposé par le mouvement réformiste.
Sur le campus, des étudiants échangent sur leurs pratiques religieuses et sur le port du voile qui s'est développé ces dernières années. Mariama est voilée, Samia ne l'est pas, et laisse apparaître ses tresses greffées sur ses cheveux.
Moi, depuis toute petite, je n'ai pas mis le voile. Des fois, il y a des gens qui me disent, par exemple, je suis mariée, les amis de mon mari, une de ses amies qui me disait, quand tu es mariée, il faut mettre de la voile. Je lui ai dit, pourquoi je dois mettre de la voile? Moi, je suis comme ça. Avant que je me suis mariée, j'étais comme ça. Je vais continuer comme ça, même si... Et après, quand je vais vouloir moi-même, par moi-même, mettre de la voile, je vais le faire, mais personne ne va me forcer à faire ceci ou cela.
Moi, avant que je ne mette le voile là, on m'a forcé de le mettre. Moi, je ne l'ai jamais mis.
L'entourage?
Les amis et tout, l'environnement en général. On me l'a forcé deux fois. Mais toutes ces deux fois-là, je l'ai enlevé. Parce que ça ne me venait pas au fond du cœur, en fait. Je remettais les mèches. Je remettais les greffages comme à l'habituel. Mais en 2020, lorsque j'ai pris ma propre décision d'arrêter tout ce qui est mèche, tout ce qui est greffage, depuis lors 2020 jusqu'à 2022, je ne l'ai pas enlevé parce que pourquoi? Il est venu de ma propre décision. Personne ne m'a forcé. Donc moi, je dis à tout le monde, je recommande à toutes les jeunes filles de mettre le voile car c'est ce qui est recommandé par le Tout-Puissant. Mais si ça ne vient pas du cœur, laisse.
Vous êtes dans une confrérie particulière?
Je suis une talibé chère. Je suis dans le Tidjania. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on l'appelle. Et je pense bien qu'on pratique l'islam comme on nous l'a demandé.
Ce que dit le marabout, c'est très important.
Leur parole n'est que succession. Tout ce qu'ils disent, ils savent bien ce qu'ils disent. Et aussi, ils le justifient à travers le Coran. Raison pour laquelle nous, en tant qu'un grand respect qu'on leur voue, on suit à la lettre leurs recommandations. Car on sait bien qu'ils ne vont pas nous recommander des choses qui vont engendrer des conséquences néfastes sur nous ou des choses qui vont engendrer des conséquences néfastes sur la population. Ils nous prodiguent des conseils qui font connaître bien, en fait.
Si, il faut souligner que ce n'est pas tous les marabouts aussi, c'est ça aussi la problématique. De nos jours, il y en a des marabouts qui se disent qu'ils sont des marabouts alors qu'ils ne sont rien.
Ou qui sont les prophètes même. Et les Sénégalais ne sont pas dupes. Ils savent bien distinguer les vrais marabouts et les faux marabouts. Surtout avec l'ère numérique de la technologie, là. On sait très bien le chemin à suivre.
Pour moi, un bon marabout ne doit pas être dans l'internet. Voilà. Essayez de dire que oui, essayez de s'abonner sur ma page, venez sur moi, donc je suis celui qui...
Donnez-moi de l'argent.
Donnez-moi de l'argent. Non. Un bon marabout reste chez lui. Ce sont les talibés qui vont aller le rendre visite, essayer de lui donner quelque chose. Et cette chose qu'on lui donne encore, il va le donner aux pauvres.
Par exemple, moi, je suis Mourid, je suis Tianta Kun. Paix à son âme, cher Becho, même quand il est parti, nous, dans notre daïra à Saint-Louis, chaque mercredi, on donnait de l'argent. On récoltait beaucoup d'argent même, qu'on amenait à Touba. Mais ce n'était pas pour le marabout. Le marabout le prenait, il le donnait aux sans-abri, aux pauvres. Juste pour vous dire qu'il y a des marabouts et aussi des non-marabouts.
Des marabouts avec grand M et des marabouts avec petit minuscule M même. Ils nous amènent, ils nous guident en fait dans le droit chemin. Ils nous disent toujours... Pratiquez la religion telle qu'il est demandé dans le Coran. Respectez surtout vos parents. Voilà.
Même si les mouvements réformistes se sont développés, les confréries soufis demeurent des acteurs centraux de la vie sociale et politique du pays, que les membres de la classe politique doivent nécessairement intégrer. C'est un point central, conclut l'islamologue Jim Dramé.
On peut le dire haut et fort. Le poids des religieux au Sénégal est... mille fois plus important que le poids des politiques au Sénégal. Et les politiques le savent très bien. S'ils vont à Touba, à Tiaouane, à Medina Baye, à Medina Gounaz, au Fouta, à Ndiassane.
Dans tous les lieux saints, marqués,
par des différentes confréries.
C'est parce que les politiques, c'est des gens intelligents. Ils savent.
Donc ils y vont pour
Solliciter un soutien. Parce que ce qu'ils disent, ils vont peut-être solliciter des prières. Mais ça, c'est la partie visible, déclarée. Mais la plupart, c'est pour solliciter des consultes de vote. L'électorat des confréries. Ça, on le sait, tout le monde le sait. Parce qu'ils savent que, ici au Sénégal, le pouvoir des religieux vraiment reste encore incontournable. Wow. C'est une force, quoi. C'est une force. Et ça, c'est le travail de nos grands-pères qui date de presque 4, 5, 6 siècles. Ça ne date pas d'aujourd'hui, quoi.
El-Hadj Manixi Camara, sociologue à l'université Chakranta Diop de Dakar.
L'un des défis majeurs, c'est justement comment travailler sur une identité commune, une identité nationale que partagerait la majorité ou l'essentiel des Sénégalais pour justement l'intérêt de la République.
Donc une identité qui soit d'abord citoyenne avant d'être religieuse.
Elle peut même dans un premier temps être religieuse, mais justement prendre en compte l'intérêt national. Elle est religieuse, elle est culturelle, mais il faudrait prendre en compte ce qui transcende les identités particulières pour bâtir une identité nationale. Donc construire ou bâtir un citoyen qui soit en mesure de converser, de dialoguer avec l'autre, même s'il est différent sur le plan culturel et religieux, mais qu'il comprenne véritablement qu'il y a justement la République qui est au-dessus de tout et qui doit nous permettre justement de converser, de dialoguer et de se retrouver autour justement d'un élément que nous partageons tous. Donc c'est extrêmement important.
C'est la fin de cet épisode de Religion du Monde, reportage et entretien à Dakar de Véronique Guémard, réalisation Ludivine Amado. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr, Twitter et Facebook. À la semaine prochaine.